Bonsoir. Le gouvernement, à travers ses services spécialisés, notamment la police, est sur les traces de tous ceux qui menacent de s'en prendre aux Tutsis, annonce du gouvernement de la République démocratique du Congo faite hier par son porte-parole Patrick Muyaya. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour contrer toute initiative allant dans le sens d'une sorte de chasse contre des communautés. Daniel Asselo invite les Congolais à éviter les actes de stigmatisation et ceux qui s'apparentent à une sorte de chasse à la sorcière. La chef de la MONUSCO, pour sa part, a appelé les Congolais à privilégier le vivre ensemble et à bannir le message de haine et toute forme de discrimination en ce moment où le pays fait face aux rebelles de M23 dans sa partie Est. Et dans le même sens, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo a, dans un tweet publié hier, condamné les appels à la violence et à l'hostilité. Comment analyser toute cette situation? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Daniel Asselo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à vous-même et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Mais dans ce débat ce soir aussi, Abdelaziz Tioy, bonsoir.
Bonsoir Guy, bonsoir à ton excellent éditorialiste et bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Dona Madimba, la présentation ce soir. Abdelaziz Tioy, vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et enfin, Jonas Tshombela, coordonnateur national de l'organisation de la société civile dénommée la nouvelle société civile du Congo. Jonas Tshombela va nous rejoindre dans ces débats. À tous, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Je vous le disais il y a quelques instants, le gouvernement, à travers ses services spécialisés, notamment la police, est sur les traces de tous ceux qui menacent de s'en prendre aux Tutsis. Message du gouvernement de la République démocratique du Congo publié hier par son porte-parole Patrick Muyaya. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour contrer toute initiative allant dans le sens d'une sorte de chasse contre les communautés. Daniel Asselo invite les Congolais à éviter les actes de stigmatisation et ceux qui s'apparentent à une sorte de chasse à la sorcière. On écoute à ce sujet Daniel Asselo.
Pour éviter ce que l'on a connu à Kalima, au Maniema, où les gens sont tombés sur un citoyen congolais, semble-t-il, à morphologie nilotique. Tout le monde l'a vu. Donc l'image traverse, circule sur les réseaux sociaux. C'est des actes à décourager. Au jour d'aujourd'hui, à Kinshasa, on a encore vu un groupe de jeunes gens circuler sur les artères de Kinshasa pour demander qu'on leur montre là où se trouvent, qu'ils sont à la recherche des Rwandais. Et là, j'interpelle tous les responsables des services de renseignement, tous les responsables des entités politico-administratives, de tout mettre en œuvre pour mettre la main sur cet individu-là. Il n'est pas permis à un citoyen congolais, à un parti politique, de se donner le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Je demande à la police nationale congolaise et même à l'armée, si des actes pareils sont en train de se passer à côté d'un camp militaire, à côté d'un poste de la police, sur toute l'étendue de la ville, on arrête ces gens-là et la justice. Je demande à Madame la ministre d'État de la Justice, même si elle n'est pas au pays, de donner des instructions aux magistrats pour que quiconque sera arrêté soit déféré devant les juges dans des procédures de flagrance.
Daniel Asselo, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO, pour sa part, a appelé les Congolais à privilégier le vivre ensemble et à bannir le message de haine et de toute forme de discrimination en ce moment où la RDC fait face aux rebelles M23 dans sa partie Est. Et dans la même foulée, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, dans un tweet publié hier, condamne les appels à la violence et à l'hostilité. Monsieur le ministre Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, nous allons essayer de faire un débat pédagogique et essentiellement de sensibilisation à l'acceptation du vivre ensemble. Nous allons donc essayer de décourager tout message de violence. Mais monsieur le ministre, les questions qui vous seront posées, ce sera pour essayer d'éclairer au maximum, mais aussi tout le reste du panel de ce soir, au maximum, l'opinion sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, sur ce qui est accepté et sur ce qui n'est pas accepté. Il y a un certain nombre d'interrogations que la population se pose. Déjà, monsieur le ministre, que répondez-vous à cette frange de la population qui estime que cette interdiction est comme une espèce de découragement, de décourager la population qui veut soutenir et le gouvernement et l'armée nationale face à l'agression dont la RDC fait face? Monsieur le ministre Daniel Asselo, probablement un problème de communication. Nous tentons de récupérer monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, Abdelaziz Tioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous sommes tous d'accord que les atteintes à l'intégrité physique de toute personne est une mauvaise chose. Mais un peu la même question que je posais déjà à monsieur le ministre tout à l'heure. Que répondez-vous à cette frange de la population qui estime que devant une agression, la population devrait trouver des formes de réaction et que les débordements qu'on a enregistrés ces derniers jours, c'est un peu comme une espèce d'initiative de la population de soutenir le gouvernement et l'armée au front?
Oui, non, on ne peut pas du tout aller dans cette direction-là. Je pense que c'est très très clair que ça ne peut pas être toléré. Il est clair, nous avions la semaine, je pense qu'il y a environ 2 semaines, lancé l'alerte avec au cours du débat avec Patrick Muyaya, le ministre Patrick Muyaya, où il a été très clair en disant, appelant les Congolais à éviter de verser dans la stigmatisation et à se réunir autour de l'essentiel. L'essentiel est de se réunir et de soutenir son armée, de se mobiliser au nom pour défendre, oui, évidemment, la souveraineté, l'intégrité territoriale, ça c'est clair. Ce sont des objectifs légitimes. Mais ces objectifs doivent être poursuivis pour les civils de manière pacifique. L'armée a la responsabilité d'utiliser la force de façon légitime dans les cas d'agression ou pour contrecarrer, remettre l'ordre et défendre la sécurité et les frontières du pays. Mais pas les civils. Les civils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Et cela dit, la responsabilité, elle est individuelle. Ce n'est pas parce qu'un groupe armé est identifié comme étant proche d'une communauté qu'on devrait s'en prendre aux membres de cette communauté. La responsabilité, elle est individuelle. Rien nous dit à ces individus que nous avons vu parader dans les rues, essayer d'arrêter des véhicules pour organiser des fouilles, véritablement que tous ceux qui sont en train de rechercher sont d'accord avec ce qui est en train de se passer ou soutiennent ce qui est en train de se passer. Ce sont des Congolais pour beaucoup comme eux et ils ont le droit de jouir en toute liberté de leur sécurité, leur intégrité physique, et personne ne peut attenter et n'a le droit d'attenter à leur vie de façon très claire et ni de s'en prendre à leur bien. Et je salue à ce propos les réactions fermes du gouvernement, et ça je pense que c'est, il faut le dire très haut, les réactions du gouvernement ont été à la hauteur de la menace. Nous avons entendu le ministre Muyaya, nous avons entendu le vice-premier ministre qui est allé un peu beaucoup plus loin, qui a été très clair. Et je salue aussi les ordres qui ont été donnés aux différents commissariats. Je peux en témoigner parce que hier, nous avons nous-mêmes vu, nous avons été interpellés par des individus qui étaient vers des commissariats et qui ont reçu la protection qui était attendue. Donc je pense que les autorités ont pris la mesure de la situation et sont en train de faire tout ce qu'il faut pour évidemment éviter que l'irréparable ne puisse se produire.
Monsieur Abdelaziz Tioy, vous qui êtes un expert de ces questions-là, la préoccupation que je soulève ici n'est pas la mienne, hein, mais c'est celle que nous captons dans les conversations avec les gens. Les gens se posent la question et vous êtes certainement outillé pour donner quelques orientations de la compréhension. Les gens voudraient savoir qu'est-ce que les autorités et toutes les personnes qui appellent au calme donneraient comme explication à le soutien que doit apporter la population à l'armée et au gouvernement. Les actions, oui, vous l'avez dit un peu en liminaire, ça doit être pacifique, mais quelles sont la nature des actions ou d'éléments que la population peut manifester comme soutien à son armée et à son gouvernement? C'est une vraie préoccupation entendue maintes fois dans les conversations auprès de l'opinion.
Je pense que certains seraient mieux placés que moi hein, pour parler de ces aspects-là, mais ce que je peux dire simplement, dans les moments de crise, évidemment, l'élan patriotique est important. Ça, nous le savons tous. Le patriotisme s'exprime à travers des messages de soutien, de la mobilisation. On a vu des Congolais se mobiliser et apporter de la nourriture, de l'eau ou rassembler des ressources pour les mettre à la disposition de leur armée. Ça, ce sont des actes qui sont, je pense, en droite ligne de l'expression du patriotisme. Mais l'expression du patriotisme ne consiste pas à prendre des armes, à essayer de patrouiller. C'est le rôle de la police de le faire. Ce n'est pas le rôle des civils de prendre des armes pour essayer de se joindre à des actions militaires. L'action militaire est trop sérieuse pour être confiée à des civils non formés et qui n'ont pas été initiés à ce travail-là. Donc je pense que c'est très très clair, il nous faut rétablir les choses à l'endroit. Il est important que de rester mobilisé, oui, de soutenir son armée, oui, c'est légitime, de continuer à exiger des autorités que les financements nécessaires soient mis à la disposition de ceux qui se battent au front, et également de s'assurer effectivement que voilà, l'essentiel, toute la mobilisation nécessaire est là. C'est juste ce que je peux dire.
Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Abdelaziz Tioy. Et comme il y a toujours des téméraires hein, qui vont faire un peu de juridisme et de la terminologie, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer en quoi consiste le langage de haine, le discours de haine?
Écoutez, les discours de haine sont en réalité tout ce qui est communication écrite, audiovisuelle ou simplement partout, sous tout autre support. Aujourd'hui, on peut y rajouter les réseaux sociaux qui est diffusé dans le but véritablement de porter atteinte à la dignité de l'autre en termes de sécurité, en termes de sur sa vie, sur sa dignité. Attaquer sur son appartenance ethnique, son appartenance nationale ou simplement son statut social. Donc le but, de façon très claire, pour les Nations Unies, en décidant d'ériger pour la première fois, et je devrais le souligner, le 18 a été consacré comme la journée de lutte contre les discours de haine. Et vous avez vu les messages du secrétaire général, vous avez vu les messages qui ont été diffusés par la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Michelle Bachelet, vous avez également vu les messages qui ont été diffusés par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Lutter contre les discours de haine, c'est protéger ceux qui sont attaqués en raison de leur origine ethnique, tribale, raciale, religieuse, politique, ou leur statut social.
Merci.
Et voilà, c'est ça.
Nous vous gardons dans ce débat donc, Abdelaziz Tioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Daniel Asselo Kito, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Donat.
Vous êtes vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, votre appel ou vos appels au calme ont été aussitôt diffusés. Mais que répondriez-vous à cette frange de la population ou à cette opinion qui estime que les empêcher de se mobiliser, c'est aussi les empêcher de pouvoir porter soutien à l'armée et au gouvernement de la RDC, ce qu'ils estiment comme étant leurs droits légitimes?
Non, on a empêché à personne de pouvoir se mobiliser, bien au contraire. à commencer par les conseils de sécurité qui a été présidé par Son Excellence Monsieur le Président de la République. À l'occasion de ce conseil, il a été décidé notamment qu'on puisse appeler notre peuple à la mobilisation, à la sensibilisation pour les soutiens à apporter à nos forces armées. Comment on peut dire que moi-même ou quelqu'un d'autre responsable de ce pays empêche le peuple congolais à pouvoir se mobiliser? Non, je disais bien au contraire, nous appelons notre peuple à pouvoir se mobiliser.
Alors,
mais en faisant quoi?
Oui, votre message justement, votre message a besoin d'être clair. Qu'est-ce que vous demandez clairement aux Congolais de faire et de ne surtout pas faire?
Oui, ce que nous demandons, c'est de poser des actes ou des actions que l'on a généralement qualifiées d'effort de guerre, parce que nous, en face de nous, il y a un pays qui s'est organisé à nous faire la guerre. Mais le peuple civil doit faire quoi? Il y a, nous disons que nous sommes un pays en majorité chrétien, et donc les gens peuvent commencer à prier pour notre peuple, à prier pour notre armée. Mais au-delà de ça, le peuple ici doit contribuer à ce qu'ils appellent l'effort de guerre. Il y a des gens qui peuvent faire ce que, à l'est du pays, les motards ont fait. Ils ont acheté, je l'ai dit, ils ont acheté des sardines, des pains, et ainsi de suite. Donc, sur le plan social, sur le plan matériel, notre armée doit constater que ce peuple est avec elle. C'est tout ce que nous demandons. Donc, on ne peut pas aller à des dérapages sous prétexte qu'on fait de la mobilisation. C'est tout ce que nous refusons. Donc, il y a lieu que ce peuple ici puisse se mobiliser effectivement pour être utile à notre armée pendant qu'elle se bat.
Alors, mais Monsieur le Ministre, quels sont les dispositifs, justement, depuis votre communication, qui sont mis en place pour essayer de faire respecter votre recommandation, sans débordement?
Oui, je ne viens pas ici révéler à l'intention de quiconque, c'est que les services de sécurité et de renseignement sont en train de faire. Je vous dis que au moment où nous parlons là, il y a des gens qui ont été pris depuis ce matin par nos services. Donc, ça, c'est le travail que nous faisons comme responsables, les services de défense et de sécurité sont en train de faire ce qui leur est demandé, et je ne peux pas venir tout décrire ici au risque que tous ceux qui sont en train d'être recherchés ici ne réussissent à nous échapper. Voilà.
Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, vous savez sans doute comme nous, hein, depuis plusieurs années, que lorsqu'on confie souvent au service de l'ordre des missions à accomplir pour justement tenir l'ordre et encadrer la population, il y a souvent des bavures, il y a parfois des débordements de la part de ces agents de l'ordre. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour que le travail qui est fait ne concerne que les gens qui sont véritablement en droit d'être inquiétés et que les services de l'ordre eux-mêmes ne se livrent pas à quelconque débordement?
J'ai comme l'impression qu'il s'agissait plutôt du discours que le politique tenait à l'occasion de ce genre de situation. Si un politique, comme moi-même ici, le ministre de l'Intérieur, je tiens un discours qui tend à orienter vers le mal le responsable de la police, de la police, des services de renseignement, mais sur le terrain, c'est des bavures qui se commettent. Et juste à ce moment ici, je pense que nous donnons la discipline pour que les droits de l'homme soient préservés dans notre pays. Nous n'avons envoyé aucun policier, aucun militaire. Et qu'il s'agisse du ministre de la communication, qu'il s'agisse de moi-même ici, le message passé, c'est de demander à nos services d'interpeller quiconque pose des actes de stigmatisation, pose des actes qu'on peut qualifier de chasse à l'homme, pose des actes qui violent les droits de l'homme, de pouvoir prendre ces messieurs, cette dame-là, et l'amener devant soit la même police, soit au niveau du parquet. C'est tout ce que nous demandons. Voilà.
Merci Daniel Asselo Kito, nous vous gardons dans ces débats. Vous aurez l'occasion de réagir directement à l'intervention des auditeurs, eux-mêmes qui se sont exprimés aussi sur la question. Jonas Tchombela, coordonnateur national de l'organisation de la société civile, dénommée la Société civile du Congo, bonsoir.
Bonsoir.
D'entrée de jeu, quel est le message que vous avez envie de véhiculer lorsque vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours un peu partout au pays et surtout lorsque vous avez entendu la réaction du gouvernement appelant au calme et à la responsabilité?
Je pense que nous ne devons pas perdre raison pour tomber dans le piège de l'ennemi du Congo pour commencer à nous attaquer aux citoyens de quel pays soit-il, ce ne serait pas intéressant. Le peuple congolais est un peuple paisible, hospitalier. Ce n'est pas parce que notre pays est attaqué ou agressé aujourd'hui que nous devions appeler la population à la violence, à s'attaquer au peuple tutsi ou soit-il. Nous devons garder raison de notre côté. Nous appelons à plus de vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent que le pays s'embrase. Donc nous appelons le peuple congolais de ne pas prendre des machettes, ne pas prendre des houes, ni ne pas prendre tout ce qui peut détruire une vie. La vie humaine est sacrée. Nous ne pouvons pas encourager ceux qui subissent certaines choses parce que notre pays est agressé. Nos forces armées y travaillent. Nous avons confiance en eux. Ce n'est pas nous de nous donner ou de nous faire justice. Et de cette manière-là, nous ne pouvons pas encourager. C'est ça le message que la nouvelle société civile congolaise appelle toute la population à se mobiliser comme un seul homme. S'il y a marche pacifique à faire, nous devons marcher pacifiquement pour soutenir ceux qui sont au front, pas pour s'attaquer à d'autres frères, d'autres pays, quand bien même nous sommes attaqués par ce pays.
Jonas Tchombela, coordonnateur national de l'organisation de la société civile dénommée la nouvelle société civile du Congo, nous décourageons ces actions avec vous, mais nous sommes là pour poser les questions que se pose la population pour que, enfin, que se parterre le casting d'aujourd'hui puisse donner les plus d'explications possibles à leurs interrogations. Nous avons aussi entendu que si les gens débordent parfois, c'est parce que ils sont inquiets de leurs frères ou des compatriotes qui vivent dans le pays concerné, qui est désigné comme l'agresseur. Est-ce que vous, qui êtes quand même un moniteur, votre organisation, de ces questions-là, est-ce qu'il y a à rassurer quand même les Congolais sur cette préoccupation? Avez-vous quelques nouvelles des Congolais qui vivent dans ce pays? Et est-ce qu'ils sont bien? Peut-être que ces informations-là pourraient calmer les esprits.
D'ailleurs, c'est l'une des raisons d'ailleurs que j'ai tenté d'évoquer tout à l'heure de ne pas tomber dans le piège. En nous attaquant à ses frères dans notre pays, nous créons de l'insécurité pour les nôtres qui sont dans leur pays. Ce que nous ne pouvons pas encourager. Et aux dernières nouvelles, nos compatriotes qui vivent au Rwanda, je sais pas si c'est de Rwanda qu'il est question, nous n'avons pas encore à ce jour un cas qui a été signalé qu'il a été agressé parce que l'armée de tel pays a agressé tel pays ou bien tel comportement a été fiché à NSS. Nous n'avons pas encore eu un cas à signaler sur ce point-là. Voilà pourquoi nous appelons à ce que cette question ne soit pas traitée avec émotion. Nous devons la traiter avec plus de responsabilité, quand bien même nous sommes fauchés dans le dos, mais ce n'est pas une raison pour nous prendre la houe, la machette ou s'attaquer avec un message ou discours de la haine, ça ce n'est pas congolais. Congolais, c'est la paix.
Merci, Jonas Tshombela. Vous restez aussi avec nous dans cette émission jusqu'à à la fin. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous allons donner l'occasion au casting de notre émission de ce soir d'écouter la réaction de leur propre voix, hein, de quelques Congolais que nous avons eu au téléphone. Et pour vous, monsieur le ministre, vous allez après réagir à ce commentaire qui nous vient de Kalemi.
Patrick Akinimali, comment dit-on la province de Tanganyika? À mon humble avis, c'est vrai que la justice populaire est condamnable par la loi congolaise, mais c'est regrettable que le gouvernement congolais s'attaque le plus aux conséquences sans résoudre les causes. Ce qui se passe actuellement au Nord Kivu, avec les M23 soutenus par le Rwanda, fait mal aux Congolais et sont donc fatigués par la guerre. Que le gouvernement congolais rétablisse la paix et la population vivra en harmonie comme ceci vers les années 80-90. Et jamais on n'entendra plus des discours de haine comme c'est le cas aujourd'hui.
Monsieur le ministre Daniel Asselo Okito.
Merci beaucoup à notre compatriote Patrick pour son souci. Mais il sait que le gouvernement de la République est en train de se battre. Si cette province du Nord Kivu est mise sous état de siège par le gouvernement de la République, c'est parce que, effectivement, le président de la République en tête, nous avons conscience que notre population qui se trouve dans cette province-là du Nord Kivu est confrontée à des problèmes de sécurité ou d'insécurité. Notre peuple est en train de souffrir sur le plan social, sur le plan économique, qu'il fallait qu'à tout prix le gouvernement de la République se batte ou que cette population puisse connaître la paix. Quand il nous pose ces problèmes-là, c'est comme si il voudrait faire savoir à l'opinion que ce gouvernement ne faisait rien ou ne fait absolument rien, alors que si cette province, je le disais, est mise sous état de siège, c'est effectivement parce qu'on a conscience de tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et qu'en tant que gouvernement responsable, nous puissions résoudre les problèmes. Les gens doivent savoir qu'on fait. Il n'y a pas seulement que ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui à Bunagana ou à Rutshuru. Il y a toute cette partie de l'Est du pays qui pose des problèmes et nous nous battons pour ça. Tout ce qui vient ajouter comme du très mauvais au jour d'aujourd'hui, c'est l'implication du Rwanda. Il faut le dire très clairement. C'est l'implication du Rwanda qui vient faire beaucoup davantage du mal. Et en tant que gouvernement, je dois rassurer à notre peuple que nous comprenons toute la frustration qu'il y a, toute la colère que le peuple congolais ressent dans son être. Ça, les gens doivent le savoir. Les gens doivent retenir, Congolais ou étrangers. Tout le monde doit retenir que la population congolaise a de bonnes raisons de se sentir frustré par les comportements du Rwanda depuis quelques années dans notre pays. Ça, on ne condamne personne. Tout ce que nous condamnons, ce sont des dérapages, stigmatisations. Je le dis, on n'a pas un problème avec la population rwandaise. On a plutôt des problèmes avec Kagame et ses collaborateurs, du gouvernement, de l'armée. C'est à ces gens-là que nous nous attaquons. Et pour ça, on ne peut pas nous faire n'importe quelle reproche. Nous sommes quand même un peuple digne en Afrique et à travers le monde. Voilà ce que nous disons. Et donc, je dis à notre compatriote, priez, comme je le disais tout à l'heure là, pour notre armée. Faites ce que vous pouvez faire vous aussi sur le plan matériel, sur le plan social, pour que qu'il s'agisse de Bunagana ou d'autres contrées de la République, les efforts du gouvernement et les efforts de nos forces armées aboutissent au rétablissement de la paix dans notre pays.
Monsieur le ministre, je posais déjà cette question tout à l'heure à Jonas Tshombela pour avoir un peu la comptabilité au niveau de la société civile, mais vous êtes la bouche la mieux indiquée en tant que gouvernement pour nous donner aussi un message sur cette question. Ça pourrait rassurer d'une certaine manière les Congolais. Est-ce qu'on a les nouvelles des compatriotes vivant au Rwanda? Sont-elles rassurantes? Et dans la mesure du possible, est-ce qu'on peut avoir quelques informations de la situation de Bunagana et environ qui sont occupés par ces forces nuisibles?
Oui, mais à ce jour, je pense que le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui devait nous faire l'évaluation de la situation sur le terrain au Rwanda, ne nous signale pas encore qu'il y a des attaques contre les citoyens congolais se trouvant au Rwanda. Donc nos services sont en train de suivre toute la situation, mais il n'y a pas encore de problème très inquiétant jusqu'à ce jour. Mais nous restons vigilants. Il y a le Congo a une ambassade là-bas. Donc, tant que l'ambassadeur ne nous a pas encore communiqué quelque chose du mal par rapport à la présence de nos concitoyens, je pense qu'il n'y a pas de raison que nous puissions créer des problèmes pour dire que Rwanda est en train de faire ceci, cela. Quant à Bunagana, ce territoire, cette entité est jusque-là occupée par le M23. La grande majorité de la population a déserté les lieux. Et donc, c'est ces militaires qui sont sur place. Vous savez, il y a toujours eu de citoyens courageux. On peut compter quelques personnes dans la ville, dans cette cité. Mais de là aussi, étant donné que l'entité, l'agglomération est gérée par le M23 et le Rwanda, je ne sais pas quelle information je peux me permettre de vous donner tout à l'heure là parce que mes services ne sont pas sur place. Mais on gère la situation des droits. Merci.
Merci, monsieur le ministre. Nous vous gardons jusqu'à la fin de ce débat. Abdelaziz Tioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous allons aussi vous faire écouter, ensuite vous pourrez réagir à ce commentaire qui nous vient de Barnabé.
Je suis maître Barnabé Mufungizi Chinamula depuis Kabare au Sud Kivu. Je salue avec véhémence les différentes opinions émises par le gouvernement congolais et la MONUSCO. Cependant, parler est une chose et prendre des mesures pour prévenir ce genre de situation en est une autre. Ne vous en faites pas, il y aura toujours des dérapages. C'est là que le gouvernement congolais devrait travailler sérieusement pour sensibiliser la population congolaise à prendre ces messages forts et surtout que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les gens devraient distinguer le régime de M. Paul Kagame et tous les habitants du Rwanda.
Abdelaziz Tioy.
Écoutez, je ne peux que saluer ce que vient de dire Barnabé. Je pense que c'est très clair. Il vient rajouter un peu des arguments à ce que j'avais dit, qu'il faut bien distinguer. On ne serait la responsabilité est encore une fois individuelle. Ce n'est pas parce que vous êtes proche, vous habitez un territoire où il y a un groupe armé et que évidemment, par la faute de ce groupe armé, on devrait vous attaquer et vous reprocher d'être proche de ce groupe armé. Ça n'a aucun lien. Donc c'est parfaitement, je suis d'accord avec Barnabé de ce point de vue-là. Je voudrais juste rappeler qu'il est important. Les dérapages, on peut les prévenir, on peut les limiter. Et c'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire. Et je les salue au début, je les encourage à continuer dans cette direction-là. Les différents commissariats de Kinshasa ont eu la bonne attitude et les équipes qui ont été mises en place ont été capables de plus ou moins limiter les dégâts et prévenir la situation de se détériorer plus. Ce qui est demandé, c'est d'éviter effectivement que ces individus-là qui propagent ces messages puissent continuer à le faire. Et en cela, comme le CESAC l'a rappelé aux différentes entreprises de médias, c'est de s'assurer que de la bonne communication, que les bonnes informations soient définitivement passer aux populations. On est dans un contexte où vous aurez beaucoup de fake news, de fausses informations, ou de la désinformation, où vous aurez même des deepfakes, que des individus vont fabriquer des images, des vidéos, des sons, pour avoir une attitude assez précise d'un certain nombre d'individus. Il y a des gens qui sont faciles à mobiliser, à manipuler, de manière à les amener à agir contre d'autres. Le potentiel pour les messages de haine, l'incitation à la violence et à la haine et à l'hostilité, qui sont des crimes, il faut qu'on le dise très clairement, le potentiel pour ces types d'incitations, pour entraîner des crimes de masse, est très élevé. C'est le meilleur moyen de générer des massacres à grande échelle très très rapidement. Et à ce titre, il faut rester mobilisé et rester évidemment vigilant et rappeler effectivement l'observance et le respect de la loi, et que tous les individus doivent laisser ceux qui sont chargés de la sécurité et de la défense du pays faire leur travail.
Abdelaziz Tioy, la vérité indiscutable est que l'homme, l'être humain, a plus peur du gendarme et de la sanction que d'autres choses. Pour ce genre d'actes, pour ce genre d'action que nous décourageons ici, les personnes qui pourraient se montrer téméraires, que risquent-elles exactement?
Écoutez, ce qu'elle risque, c'est évidemment des poursuites, d'être arrêté et poursuivi. Je pense que le vice-premier ministre a dit clairement que des instructions avaient été passées pour... Il n'a pas voulu entrer dans les détails, que ce qui apparaît sur ces vidéos-là et qui donne des noms, qui donne des endroits où habiteraient des sujets rwandais ou des personnes appartenant à la communauté ou d'ethnie Tutsi, ces individus sont en train d'être recherchés, certains arrêtés, neutralisés. Il le dit entre les lignes, donc si je me trompe, qu'il peut rectifier. Mais dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut véritablement... la norme, la loi, elle est faite pour être respectée. Et pour que la loi puisse être identifiée par tout le monde comme étant l'élément, la ligne...
La limite à ne pas franchir.
Voilà, la limite à ne pas franchir, l'élément... autour duquel qui est le commun dénominateur pour tout le monde, il faut évidemment que ceux qui outrepassent réellement les lignes, qu'on puisse réellement les sanctionner. Tout répressif pour quelqu'un, un chef de l'homme comme moi qui parle du tout répressif, vous pouvez bien comprendre qu'on est arrivé à un niveau où l'inquiétude prend le dessus sur tout le reste. Parce que ce qui est en cause ici, c'est l'exercice des libertés démocratiques, l'exercice du droit de manifester, l'exercice de la liberté d'expression, comme je l'ai rappelé la dernière fois, a une limite. La limite, c'est de ne pas porter atteinte à la dignité de l'autre, de ne pas inciter à la violence ni à la haine. Ce sont des limites très claires qui ont été identifiées et qui sont acceptables en termes de limitation dans le cadre de l'exercice de ces libertés.
Jonas Tchombela, coordonnateur national de l'organisation de la société civile, dénommée la nouvelle société civile du Congo. Vous aussi, vous allez tendre l'oreille pour écouter ce commentaire et ensuite vous pourrez réagir, ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
C'est Vital Nyunda depuis Bukavu au Sud-Kivu. Ce genre d'agissement et de manifestations de haine contre certaines couches de population appartenant à la communauté congolaise risque de faire déborder les vases et susciter les yeux des démons dont l'ennemi de la RDC s'est toujours servi depuis longtemps comme motif d'agression de notre pays. Mais aussi, il peut brandir cette menace à la face du monde pour trouver la justification de son agissement, c'est-à-dire il vient au rescousse de la communauté discriminée. D'où les autorités congolaises devraient user des tools, des moyens de communication en sensibilisant toutes les couches de population le plus tôt possible, mais aussi les appeler à l'apaisement pour éviter des événements qui vont compromettre à long terme la sécurité nationale.
Jonas Tchombela.
Oui, je partage parfaitement le point de vue de mon compatriote Mabukabou. Nous pensons que le peuple congolais devra faire preuve de retenue pour ne pas tomber dans le piège, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être ceux qui se font manipuler sont des gens qui sont instrumentalisés par ce que nous redoutons. Donc il ne faut pas que nous arrivions à tomber dans le piège pour susciter les vieux démons, comme l'a dit le compatriote, le message d'incitation à la haine, le message de stigmatisation, tous ces actes sont réprimés par la loi de la République. Il faudra que nous fassions beaucoup plus attention. Et que ce n'est pas encore une fois de plus, je le répète, que parce que notre pays est agressé par le Rwanda, que nous devions avoir un comportement barbare. Non. Nous, on doit avoir un comportement responsable et garder la raison de notre côté, de telle manière à ce que les autorités de la République puissent trouver la solution de la paix qui se pose à l'est de notre République depuis plus de 20 ans et toujours avec le même pays. Est-ce que ce n'est pas là une bonne opportunité pour que nous puissions nous mobiliser, non pas pour stigmatiser ou appeler à la haine, mais nous mobiliser pour appuyer ceux qui recherchent la paix de la République à travers ce qui est mené par nos forces armées et bien d'autres communautés qui compatissent avec nous sur le terrain. Donc, je partage parfaitement ce point de vue et j'appelle à plus de vigilance et ne jamais accepter de tomber dans le piège de l'ennemi qui instrumentalise certains d'entre nous. Et ici, j'attire aussi l'attention du ministre. Je ne suis pas de cet avis que peut-être que je le dis, mais je le partage pas. Je ne pense pas que les forces armées, il a bien même dit, lui-même le ministre, qu'il n'envoie pas les forces armées pour aller encore que d'autres parties. Et nous qui surveillons les questions des droits de l'homme, nous sommes très vigilants là-dessus. Il ne faut pas aussi qu'il y ait d'autres débordements qui peuvent amener d'autres incidents. Nous pensons que la vigilance que le ministre venait de nous garantir, nous restons extrêmement aussi vigilants pour que finalement nous puissions travailler pour la paix. On travaille par là, pour la paix en créant des conditions de guerre. Non, nous devons travailler en créant des conditions de paix. Et là, nous pouvons lutter sur une paix durable.
Merci Jonas Tchombela, vous avez vidé la dernière question que j'allais vous poser pour comme conclusion de votre part pour cette émission. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Abdelaziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, nous sommes en train de conclure cette émission. Est-ce que au niveau de votre organisation un certain dispositif est mis en place pour que, même faisant son travail, les forces de l'ordre ne se versent pas dans une autre problématique préoccupante?
Oui, tout à fait. Nous continuons le tout ce qui est renforcement des capacités. À l'heure où je vous parle, il y a, sous l'instruction du chef d'état-major général des armées, le service d'éducation civique des armées, a démarré une session de formation à Goma, qui est animée par le CECAS. Hein. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur aussi, a dépêché une délégation qui a commencé par le Nord Kivu pour travailler avec la police, pour renforcer leurs capacités en matière de tout ce qui est violation des droits de l'homme et toutes les activités connexes. Donc, cette activité va se poursuivre dans toutes les zones et toutes les garnisons concernées par l'insécurité à l'Est. Pour dire simplement qu'il faut investir dans le renforcement des capacités, de la conscientisation, mais il faut aussi travailler à la professionnalisation, c'est-à-dire créer les conditions pour des forces de sécurité et défense réellement professionnelles. Et à cela, on a vu des prémices assez encourageantes qui, je pense, si elles se concrétisent, pourront véritablement valoir à la RDC d'avoir des forces de sécurité à la hauteur des tâches qui sont attendues d'elles par les populations. Alors, demain, comme vous le savez, les Nations Unies soutiennent le gouvernement pour déployer tout un plan qui inclut la prévention et tous les aspects de répression et renforcement de l'arsenal législatif. Vous avez la proposition de loi sur le tribalisme portée par l'honorable Gary Sakata. Il y a le CESAP qui travaille avec les acteurs de l'audiovisuel pour réellement avoir les bons contenus dans les émissions et autres. Vous avez l'action du ministre de la communication et il y a d'ailleurs, j'en profite pour dire que demain par exemple, il y a un forum régional qui démarre à Kinshasa et qui va abriter, qui va réunir tous les pays de l'Afrique centrale ainsi que les institutions de régulation et qui va porter sur le développement d'une stratégie régionale et de plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours d'haine en Afrique centrale. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire et nous l'espérons qu'il pourra porter ses fruits afin évidemment d'éviter que les populations ne versent dans des dérives qui pourraient être préjudiciables à la paix et à la sécurité.
Merci Abdelaziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, votre dernier message, monsieur le ministre, cette mission est terminée.
Au nom de son Excellence, monsieur le Président de la République, celui de son Excellence, monsieur le Premier ministre et tout le gouvernement, je dis à notre peuple que l'ensemble du gouvernement comprend toute la frustration, toute la colère qu'il y a du fait de cette énième agression préparée par le Rwanda sur notre territoire. Mais, parallèlement à cela, il n'y a pas de raison que nous puissions nous comporter de manière à donner raison au Rwanda qui pourra crier demain pour dire « Voilà, le Congo est en train de faire ceci ou cela contre les Tutsis. Nos frères Tutsis congolais qui sont avec nous sur ce territoire, malheureusement, qui brillent par leur silence, on ne comprend pas pourquoi, et pourtant ils devaient se mettre debout avec nous pour démentir tous les comportements de Kagame et ses membres du gouvernement, son armée, sont en train d'orchestrer chaque jour qui passe contre le Congo. Voilà, donc j'appelle tout le monde à l'apaisement et à la mobilisation. Restons vigilants parce que c'est notre peuple, c'est notre pays, c'est à nous de pouvoir le défendre. Merci beaucoup.
Merci Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, à Abdelaziz Thioy et Jonas Tiombela pour votre participation à cette émission. Billy Landry Betou et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Donald Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue en ce Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.